Écriture, une émission présentée par Paul Calzada, interviewé par Elios Mikel.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous avons la joie de recevoir une nouvelle fois, la 12e, le pasteur Paul Calzada. Au rythme d'une visite par trimestre, voilà donc 3 années que tu nous apportes ton concours.
En effet, et je mesure avec ce rappel combien le temps passe vite. Tout d'abord, comme tu l'as fait, mon cher Elios, je souhaite également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance. Et je voudrais ajouter merci à FM Évangile 66 de m'ouvrir son antenne. C'est pour moi une grande joie de collaborer à l'annonce de la bonne nouvelle de la grâce que Dieu veut dispenser à tout être humain, homme ou femme, indistinctement de ses origines, de ses croyances, car il donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Oui, je suis heureux de travailler avec un homme comme André Nierga, fondateur de la radio et cheville ouvrière de cette œuvre depuis 1981. Un véritable exploit. Gloire à Dieu pour sa fidélité, sans laquelle un tel exploit ne pouvait être accompli. Et bien sûr, je suis heureux aussi, Elios, mon compagnon de service depuis plus de 50 ans, de répondre à tes interviews.
Nous ne pourrons pas mentionner toutes celles et ceux qui participent à cette œuvre, mais je citerai Sylvie, ce jour à la technique, Philippe qui est le programmeur des émissions. Quant à Cyril, il a mission d'alimenter le site internet de FM Évangile 66 sur lequel vous pouvez écouter en direct notre radio et cela all over the world, comme disent nos amis anglophones. Bon, disons tout simplement dans le monde entier, puisque plusieurs personnes nous l'ont attesté, de Nouméa, de Québec, de Denver ou Bruxelles, sans omettre notre cher Hexagone.
Et si je puis me permettre de rajouter une petite chose, Elios, car comment ne pas mentionner toutes celles et ceux qui soutiennent la radio par leurs prières et leurs dons, et qui sont ouvriers avec nous dans cette belle œuvre.
En effet, et nous les en remercions. Ce jour, nous parlerons de regard et perception. Paul, c'est le titre que tu as donné à l'un des derniers fascicules parus aux éditions Esdras. Au verso de la couverture, tu cites le pasteur Ivan Carluer, principal responsable de l'église MLK à Créteil. Pourquoi ?
Eh bien, avant de dire pourquoi, je vais d'abord rappeler la phrase citée. Voici ce qu'il dit : le combat du regard est le plus important car il détermine tous les autres combats de la vie. Alors, pourquoi ai-je cité le pasteur Ivan Carluer ? Nos cinq sens sont les fenêtres ouvertes sur ce qui nous entoure. Avec eux, nous sommes connectés non seulement aux éléments matériels qui nous environnent, mais également nous sommes connectés les uns aux autres, et bien sûr aussi avec Dieu. En effet, n'est-il pas dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». C'est dans le psaume 34, verset 8. Ici, dans ce psaume, deux de nos sens sont invités à se connecter avec Dieu. Parmi tous ces sens, la vue et le regard sont souvent sollicités. Des centaines de références y font allusion dans la Bible. Le verbe « regarder » et le nom « regard » sont employés plus de 500 fois. Le verbe « voir » et le nom « vu » encore plus souvent. N'y a-t-il pas comme une indication à saisir l'importance qu'il faut accorder à ce que nous regardons, comment nous le voyons, comment Dieu le voit, et aussi comment Dieu nous regarde, et comment nous le voyons.
Tu as puisé le long de l'écriture. C'est le nouveau nom de l'émission dans le cadre de laquelle se fait l'interview. Elle remplace « C'est écrit pour vous ». Tu as puisé de nombreux exemples pour souligner comment nos regards impactent notre vie spirituelle. Quel est, s'il y a lieu, le regard que l'on peut mentionner en premier ?
Le premier regard cité dans la Bible est celui de Dieu. Il est écrit dans Genèse au chapitre 1er au verset 4, « Dieu vit que la lumière était bonne ». À cette reprise, dans le premier chapitre de la Bible, comme pour scander les grandes étapes de la création, il nous est parlé du regard de Dieu sur son œuvre, et à chaque fois, il voit que c'est bon.
Pourtant, au départ, le tableau était sombre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Genèse, chapitre 1, verset 2.
En effet, mais Dieu va partir de ce chaos. Il va agir. Et progressivement, ce chaos va se transformer en quelque chose de beau, de bon, de vivant. Au fur et à mesure, Dieu jette un regard sur son œuvre. À chaque fois, il voit le progrès fait, la vie se développer, l'harmonie s'installer. Il voit que la finalité qu'il poursuit se réalise étape par étape et, à chaque étape, il est satisfait de ce qu'il voit. J'aime voir ce regard positif de Dieu sur ce qu'il fait. Il part du tohu-bohu, du vide, et il entreprend des séparations, des mises en place de principes de vie, des agencements, et il voit que ce qu'il fait est bon.
Quelle leçon pouvons-nous retirer de cela ?
Ce qui se produit lors de ce commencement m'amène à poser quelques questions. Comment voyez-vous votre vie ? Voyez-vous le chaos dans lequel vous a plongé une séparation, un deuil, un accident, une violence, une maladie ? Ressentez-vous le vide dans lequel ces drames vous ont plongé ? Alors que la confusion, la dépression, le désespoir remplissent votre existence, comment voyez-vous l'avenir ?
Il me semble que lorsqu'on passe par ces terribles situations, le regard que l'on porte est souvent un regard pessimiste, qui ne voit aucune issue.
Oui, mais je voudrais dire ceci, bien aimé. Voulez-vous porter un autre regard sur ce chaos ? Pour cela, remettez tout ce chaos entre les mains de Dieu. Laissez-le prendre en main votre situation désespérée, car il porte un regard positif sur le devenir de votre vie. Il voit ce qu'il doit faire pour restaurer vie, harmonie et espérance. Étape par étape, il va commencer à introduire la lumière, l'harmonie, la vie. Il voit le potentiel merveilleux qui est en vous. Il voit tout ce qu'il peut accomplir en vous et avec vous. Il voit les bienfaits de sa parole sur votre âme. Il voit que cette transformation se fait progressivement et il se réjouit de voir les progrès accomplis.
Parfois, nous sommes tellement accaparés par l'échec, le drame, la situation compliquée que nous traversions, qu'il nous arrive d'oublier de voir comment Dieu, dans ces choses difficiles, voit des opportunités de manifester sa puissance de vie.
Oui, mais dans toutes ces situations, vous pouvez dire à Dieu, « Seigneur, ma vie est bouleversée en ce moment par le drame que je traverse. Alors que je ne vois que vide, néant, chaos, confusion, toi, tu vois des possibilités de vie. Toi qui vois le bon que tu peux tirer de ce chaos, aide-moi à lever les yeux plus haut et à voir comme toi tu vois. »
Après la pause musicale, nous évoquerons divers regards portés par des personnages de la Bible. Restez avec nous.
Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, 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 donne à mon cœur le rythme de ta joie.
Oh Seigneur, avec moi.
Donne à ma joie le rythme de ton cœur.
Oh Seigneur. À dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon.
Donne à ma chanson le rythme de ta vie,
ô Seigneur mon ami.
Donne à ma vie le rythme des chansons.
Abraham et Lot, son neveu, ont un temps fait route ensemble. Puis Abraham et Lot se sont séparés. La direction prise par chacun montre qu'ils ne portaient pas le même regard sur ce que sont les vraies valeurs. Qu'en est-il de cette divergence ?
Alors voici ce qui est écrit à ce sujet. Lot leva les yeux et il vit la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et concernant Abraham, l'Éternel dit à Abraham, « Lève les yeux, regarde tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. » Ces deux textes se trouvent dans Genèse au chapitre 13. Verset 10 pour Lot, les versets 14 à 15 pour Abraham. Dans ce même chapitre, à quelques versets d'intervalle, nous sommes interpellés par ces deux regards. Celui de Lot, qui se pose sur la belle plaine verdoyante du Jourdain. Son choix sera vite fait. Il voit là où il sera le plus facile de vivre et de prospérer. Sa vision est une vision à court terme. Il ne voit pas bien loin. C'est une vision qui lui est dictée par sa propre convoitise. Certes, il ne peut pas ignorer l'immoralité qui sévit dans les villes de la plaine. Mais il n'attarde pas son regard sur cet aspect des choses. Il ferme les yeux sur cela. Il ne voit que le profit immédiat qu'il peut trouver dans cette vallée verdoyante.
Quelles seront les conséquences de cette vision à court terme et, comme tu le soulignes, intéressée?
Les conséquences sont évidentes. Cette perception des choses va finalement conduire Lot à la perte de tous ses biens et même à la perte de son honneur.
Par contre, qu'en est-il du regard d'Abraham ?
Alors, le regard d'Abraham est de toute autre nature. Premièrement, son regard lui est dicté par Dieu. Dieu lui dit dans quelle direction il doit regarder. Deuxièmement, le regard que Dieu lui propose d'avoir est un regard qui va le plus loin possible. C'est un regard qui doit embrasser toutes les directions. C'est un regard illimité dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est un regard tourné vers l'avenir, rempli d'espérance et de promesses merveilleuses. Voilà quelle est la vision d'Abraham. Une vision à long terme, venant de Dieu, portant sur des promesses immuables. Cette vision des choses va amener Abraham à devenir l'héritier de la terre promise, légué ensuite à ses descendants Isaac et Jacob.
Quelles applications pratiques pouvons-nous tirer de ces deux façons de voir ?
Alors, je ne sais dans quelle situation vous vous trouvez en ce jour. Il se peut que vous ayez des choix à faire. La manière dont vous regardez les choses peut vous conduire soit vers un choix de vie, soit vers un choix destructeur. Peut-être qu'il vous est proposé une situation où la compromission sera nécessaire. Refusez de ne voir que pour le temps présent. Regardez aux choses en pensant au salut de vos enfants et à l'éternité. Regardez loin en pensant aux conséquences de vos choix. N'ayez pas une vision à court terme, mais une vision à long terme.
Donc, on peut dire de ceux qui ne voient qu'à court terme, comme Lot, qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.
Voilà une façon plaisante de dire les choses, mais en effet, c'est bien cela.
La vision à long terme est naturellement portée par la foi, puisqu'elle fait confiance à Dieu et à ses promesses. Pour ce qui nous concerne, vers quoi l'Écriture oriente-t-elle notre regard ?
Mais l'Écriture oriente nos regards vers l'éternité, vers les promesses de Dieu. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Voyez plus loin que le visible douloureux et incertain. Regardez aux promesses divines. Attendez-vous au secours de l'Éternel.
Court terme, long terme, ces expressions nous placent dans le présent ou un futur plus ou moins lointain. Jésus évoquera aussi le regard orienté vers le passé. Qu'en est-il ?
Voici ce que Jésus dit à ce sujet. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est dans Luc chapitre 9, verset 62.
Ceci nous rappelle ce qui est arrivé à la femme de Lot. Alors que Lot est invité à quitter rapidement Sodome, le messager de Dieu lui dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. » Genèse chapitre 19, verset 17. Pourquoi ce conseil ?
Eh bien, il est des situations douloureuses dans desquelles on ne peut sortir qu'en décidant de ne pas continuer à regarder en arrière. Vous avez connu un échec sentimental, financier ou de tout ordre. Le moment est venu de ne pas continuer à regarder dans le rétroviseur, à vous morfondre sur cet échec.
Dans le livre « GPS céleste », écrit par ton fils Daniel, celui-ci évoque clairement ces choses. Peux-tu nous lire cet extrait si poignant de vérité ?
Voici ce que Daniel écrit. « Il est des choses que j'ai faites, des paroles que j'ai prononcées, des lieux que j'ai fréquentés ou des attitudes que j'ai eues et que je regrette amèrement. À bien y réfléchir, je ne suis certainement pas un cas unique. Nous sommes tous des pécheurs. Et sans aucun jugement de ma part porté sur votre vie, que je ne connais d'ailleurs pas, vous avez peut-être aussi des expériences passées qui vous sont propres, auxquelles vous pensez. Alors que vous les aviez déjà archivées et classées dans les dossiers erreurs, faux pas, échecs cuisants, dont vous êtes peu fiers. Vous dévoiler mes échecs ne serait utile en rien. Cependant, sans vous faire part de confidences, je peux vous déclarer que je n'ai plus à rougir de ces choses. Dieu m'a pardonné et il m'a appris à me pardonner moi-même. Cela a pris du temps. J'ai perdu de précieuses semaines à regarder, plus qu'il ne fallait dans le rétroviseur. Ce miroir reste utile pour être consulté de temps en temps. Seulement, sans quoi, si nous fixons nos regards uniquement sur lui, nous risquons très rapidement l'accident. Voilà la citation de Daniel.
Au fait, c'est bien ce qui est arrivé à la femme de Lot. En regardant en arrière, elle fut littéralement pétrifiée. La Bible donne-t-elle d'autres exemples ?
Oui, je citerai le cas de l'apôtre Paul. Au passé chargé en tant que persécuteur de l'Église, il a compris que ses regards portés sur ce passé ne pouvaient que le paralyser. Aussi, il a décidé de regarder en avant. Voici ce qu'il dit. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Il écrit cela aux Philippiens, chapitre 3, verset 13. « La vie est faite de réussites et d'échecs, de victoires et de défaites. Parfois, nous sommes à terre. » Et c'est à ce moment-là que nous devons entendre la voix de Dieu. « Ne regarde pas en arrière, regarde au but. »
Daniel, dans l'extrait que tu as cité de son livre « GPS céleste », en s'adressant aux lecteurs et aussi aux lectrices, Daniel dit de ne pas porter de jugement sur elles et eux, car tous pécheurs, et sans faire de confidence, ce qui n'est pas utile. Il souligne la grâce que le Seigneur lui a faite. Je le cite, « Dieu m'a pardonné, il m'a appris à me pardonner moi-même. » Cela a pris du temps. C'est le résultat du regard qu'il a su porter sur lui-même. Cela amène la question suivante. Paul, trouve-t-on des personnes qui ont une vision déformée sur elles-mêmes ?
En effet, Jésus parle de cette réalité lorsqu'il nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Matthieu chapitre 7, verset 3.
Cette phrase de Jésus est devenue un adage populaire. Car même ceux qui ne lisent pas la Bible connaissent cette formule. Que faut-il en comprendre ?
Jésus nous rappelle que nous sommes plus enclins à juger les autres qu'à nous juger nous-mêmes. Or, cette partialité dans le jugement des autres nous empêche de voir les choses comme Dieu les voit, et cela empoisonne nos relations avec les autres. D'ailleurs, le Seigneur ajoute, « Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Matthieu 7, versets 4 à 5.
Peux-tu nous donner un exemple tiré de la Bible ?
Je prendrai l'exemple du roi David. Pardon. Le roi David avait une poutre énorme dans sa vie, mais il ne la voyait pas. Par contre, lorsque le prophète lui parle d'un homme riche qui a mangé la brebis de son pauvre voisin, David voit rouge. Il est irrité contre cet homme riche. Il voit le mal qu'a fait cet homme. C'est alors que Nathan lui ouvre les yeux en lui disant « Tu es ?» Cet homme-là, en voyant sa poutre mise en évidence par la lumière divine, David s'effondre devant Dieu.
David est-il un cas exceptionnel, unique ?
Certainement pas. D'une manière générale, l'esprit religieux nous conduit à être dans cette attitude de jugement. nous le découvrons tout au long des récits des évangiles. Les religieux du temps de Jésus voyaient la femme surprise en adultère et la condamnaient. Ils jugeaient très négativement le collaborateur des Romains qui se frappait la poitrine en reconnaissant son indignité. Simon juge sévèrement la femme de mauvaise vie qui répand un parfum de grand prix aux pieds de Jésus. Il voit en elle une prostituée, mais il ne voit pas en lui l'avarice et l'orgueil qui dominent sa vie.
On pourrait dire que ces religieux, satisfaits d'eux-mêmes, ne voyaient pas la poutre de l'orgueil, de l'avarice et de toutes les addictions qu'ils cachaient minutieusement. Ils vivaient dans une telle hypocrisie que Jésus les traitera de « sépulcre blanchi ». Mais quel est l'antidote à cet aveuglement sur soi ?
L'antidote à l'hypocrisie est de laisser le Saint-Esprit nous révéler ce que nous sommes devant Dieu. Nous sommes des pécheurs que Dieu veut sauver par grâce. Nous sommes appelés à laisser la lumière du Saint-Esprit éclairer nos cœurs pour être capables de nous juger nous-mêmes. La prise de conscience de mes propres fautes me rend apte à exercer la miséricorde envers les autres. Les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience envers les autres naissent dans le cœur de ceux qui voient d'abord leurs propres défauts.
Cette vision déformée que tu viens d'illustrer admirablement traduit un fait courant et je dirais bien humain. Nous sommes tous prompts, comme David, à voir les fautes d'autrui, mais très lents à voir que nous faisons de même. Dans Romains chapitre 2, verset 17 et suivant, l'apôtre Paul écrit ceci. « Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu? Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. Tout individu est facilement exigeant avec les autres et tolérant avec lui-même. Alors question, n'y a-t-il pas derrière cette attitude une disposition de cœur? Nous entendrons la réponse après la pause musicale.
Seigneur, quand je rencontre mon frère, que je croise son regard, pour que mon jugement reste dans ta lumière. Oh, donne-moi tes yeux, ô Jésus, oh, donne-moi tes yeux. Seigneur, quand je rencontre mon frère et qu'il porte son chagrin, pour que mon amitié console sa misère, oh, donne-moi tes mains, oh Jésus, oh, donne-moi tes mains. Seigneur, quand je rencontre la haine qui me barre le chemin, pour que mon cœur humain soit plus fort que ma peine, oh, donne-moi ton cœur, oh Jésus, oh, donne-moi ton cœur.
Tout individu est facilement exigeant avec les autres et tolérant avec lui-même. Alors question, n'y a-t-il pas derrière cela une attitude, une disposition de cœur.
En effet, Jésus décrit cette attitude dans la parabole dite du bon samaritain. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. » Ce récit se trouve dans Luc chapitre 10, versets 30 à 34.
Quel point commun constate-t-on entre les trois passants?
Trois fois, le verbe « voir » est cité, comme je l'ai souligné, intentionnellement. Les trois personnages ont vu le même événement, mais ils ont eu chacun un regard différent. Deux passent outre, ils s'esquivent. Essayons d'imaginer quel pouvait être leur prétexte ou leurs bons arguments. Par exemple, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de quoi aider. Les besoins sont trop grands. Mes moyens d'intervention sont limités. Et puis, je ne m'occupe que des problèmes spirituels. J'aimerais aider, mais je ne suis pas compétent. Peut-être a-t-il été imprudent. On pourrait ajouter encore d'autres réflexions de ce genre.
En effet, rallonger la liste des excuses que les religieux, pour se donner bonne conscience, sont capables de mettre en avant, au détriment de ce qui semble si évident porter secours, et souvent, c'est en se cachant derrière leur tradition ou liturgie.
Oui, la coupe est bien pleine. Notons ceci. Trois regards sont posés sur une même victime, mais un seul eut compassion. Et il s'agit d'un étranger.
En quoi son regard est différent?
Son regard est différent car il regarde avec compassion. C'est le regard du cœur. Il a senti les douleurs, il a compris les besoins cruciaux, il a cherché les moyens de subvenir aux besoins du blessé. Il a trouvé les ressources. Il a sauvé la victime. Son regard l'a amené à agir. Pour comprendre et respecter la pensée de Jésus, cette parabole nous fait poser deux questions. Nous y répondons en respectant le texte original, dépouillé de toutes nos interprétations et traditions. Qui a eu un regard froid et distant? La réponse est évidente. Uniquement les deux croyants, le prêtre et le lévite. Qui a eu un regard de compassion? Seul l'étranger, samaritain et païen aux yeux des croyants de l'époque.
Que cherche à nous enseigner Jésus par cette parabole?
Jésus veut nous enseigner deux choses. Premièrement, que les croyants n'ont pas l'exclusivité de la compassion. Et deuxièmement, que les croyants peuvent avoir un regard, hélas, indifférent. En tant que croyant, je suis amené à côtoyer des milliers de personnes blessées par la vie et à voir leurs besoins. Je croise des enfants maltraités, des prostituées placées sur nos routes nationales, des SDF sans abri, des réfugiés qui ont tout perdu, des couples en difficulté, des personnes âgées oubliées par leur famille, des jeunes sans travail pris au piège de la drogue. La liste est longue. Or, la question que Jésus me pose et qu'il pose à chacun d'entre nous, et celle-ci, « Quel regard portes-tu sur tous ces drames ? Un regard indifférent ou un regard de compassion qui te pousse à l'action.
Le regard empreint de compassion nous pousse à l'action. C'est ce que l'apôtre Jean écrit dans la première épître au chapitre 3 et au verset 18. Je cite « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. » L'Écriture nous donne des pistes pour que nos regards guident nos actions. Paul, peux-tu nous en citer quelques-unes ?
Alors, c'est ce qui s'est passé avec Rebecca. Dans Genèse, au chapitre 24 et au verset 14, elle a vu que les chameaux du nomade Eliezer étaient assoiffés. Ce qu'elle a vu a inspiré son action. Elle a vu et elle a puisé de l'eau pour ses bêtes. Voir les besoins qui nous entourent dans les familles, la société, l'enfance maltraitée, c'est bien. Mais ce que nous voyons nous pousse-t-il à l'action, à l'engagement? Eliezer regardait, sans rien dire, cette jeune fille qui, ayant vu le besoin, s'était mise à l'œuvre sans tarder. Et quelle tâche! Pensez donc, donner à boire à des chameaux assoiffés. Alors, n'est-ce pas ce que nous demande Dieu? Dans Ésaïe, au chapitre 58, verset 7, il est écrit « Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Voir la soif de paix chez les uns, voir la solitude chez d'autres, voir le désespoir ici ou là, cela génère-t-il une action de notre part? C'est en voyant les pauvres dans les quartiers de Londres que William Booth créa l'armée du salut et sauva des milliers de vies. Il est l'un des milliers d'exemples d'hommes et de femmes qui, ayant vu des besoins, y ont répondu dans l'esprit de l'Évangile. Lorsque Jésus voit la foule avoir faim, il lance un défi à ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Il propose d'entreprendre une action parce qu'il a vu le besoin de cette foule.
Le temps nous manque pour parler de vision obscurcie ou incrédule, mais aussi du regard des autres sur nous-mêmes, etc. Ces choses sont abordées dans le fascicule « Regard et perception » publié par les éditions Esdras. Merci Paul. Nous vous disons à bientôt pour la prochaine interview.